16h-18h.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures de voyage tous les après-midi pour rêver, pour s'évader, pour penser à autre chose. Grand départ donc pour le Canada tout à l'heure après 17h, mais là tout de suite nous sommes dans les Cévennes. L'un des ciels étoilés les plus purs de France, c'est reconnu. Et puis notre guide cet après-midi, il est ambassadeur de Lozère, ce qui est un joli titre. Il a été découvert par le grand public dans Kaamelott, la série télé créée par son propre fils Alexandre Astier. Vous connaissez le petit air maison. En ligne avec nous, le comédien Lionel Astier. Bonjour Lionel Astier.
Bonjour.
Vous connaissez ce petit air qu'on vient de passer là, ça vous dit
quelque chose ? Oh là, oui.
Alors vous êtes né à Alès, c'est la capitale des Cévennes. Toute votre famille est originaire de Lozère. Vous avez même rencontré là-bas votre femme à Vébron. Vous y êtes marié. Vous êtes accro à cette région. Qu'est-ce qui vous plaît tant là-bas ?
Oh, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans cette région. Oui, je suis né à Alès. Ma famille est partagée entre la famille du côté paternel de la Lozère du Nord, ce qu'on appelait le Gévaudan avant, oui. et le côté maternel, la Lozère du Sud, c'est-à-dire très catholique au Nord, très protestant au Sud.
Très bien, ça doit faire un beau mélange.
Oui.
Alors, c'est une terre très, très contrastée, mais également dans les paysages. C'est-à-dire qu'on peut avoir une zone très, très, très schiste, très pierre. Et puis, de l'autre côté, c'est les genêts, c'est la verdure.
C'est ça. Les Cévennes du Sud sont plutôt... Il y a quelque chose de... un peu de paradisiaque dans l'été comme ça, dans les Cévennes du Sud, c'est les châtaigniers, ce sont les fougères, ce sont les choses comme ça. Et puis quand on va dans les Cévennes du Nord, là on est dans le schiste, on est dans la pierre mauve, cassante, ce sont des paysages un peu... oui, pelé, comme j'ai entendu que vous disiez tout à l'heure, oui. mais magnifique. Il y a un petit côté, entre guillemets, biblique dans ces paysages-là, qui sont rudes, effectivement. Et ce contraste-là, moi, en tout cas, je trouve qu'il forge des caractères, quoi. Ouais.
J'aime bien le mot biblique que vous utilisez, parce que, en fait, quand on est dans cette région, et surtout, mais j'aime bien le côté pelé, c'est surtout celui-là qui me plaît, il y a un côté un peu mystique, magnétique, et ça vient d'où ça vient cette sensation si particulière aux Cévennes ?
Alors ça, je pourrais pas vraiment le dire. C'est un pays de résistance. Ouais. Là, je pense aussi au Camisard, c'est-à-dire à l'histoire des Cévennes. C'est-à-dire que effectivement, c'est une. Je peux vous en parler à deux.
Bien sûr, monde. Bien sûr.
Eh ben, en fait, la révocation de l'édit de Nantes en 1685 a interdit la religion protestante en France. Et avec une interdiction de sortir du royaume. C'est-à-dire qu'en fait, la révocation, ça consistait en fait à interdire cette religion sous peine de prison, sous peine de galère, sous peine d'exécution, et de démolir les temples et d'annuler tous les signes extérieurs de protestantisme. Et donc, en Cévennes, pourquoi en Cévennes, je ne sais pas, mais en Cévennes en tout cas, la résistance s'est organisée. Et cette résistance, c'est avec des gens qui étaient gonflés de Bible. Et c'est vrai que je pense que les paysages étaient inspirants pour ça. C'est-à-dire qu'ils lisaient la Bible, ils la connaissaient par cœur. Et au sein de ces paysages-là, je pense que les choses ont pris des dimensions qui leur rappelaient peut-être... ils appelaient ça le désert, puisqu'ils se réunissaient dans les montagnes. Et je pense que ça faisait référence effectivement au désert de Moïse, quand Moïse a fait traverser son peuple pour fuir Pharaon.
Voilà, c'est une terre de protestants résistants, mais qui ont résisté très durement, très, très férocement.
Oui, c'est une terre qui ont résisté effectivement quand les pasteurs ont été chassés, ils se sont organisés entre eux. Il y a eu d'abord une vague de prédicants, de laïcs comme ça, qui ont pris la parole au désert, qu'on appelait donc, c'est-à-dire dans les bois, dans les montagnes. Ensuite, il y a eu une épidémie, ce qu'on appelle une épidémie de prophétisme, et une épidémie de prophétisme qui s'est terminée en une prise d'armes. C'est là qu'on appelle les camisards qui étaient à la fois prédicants, prophètes et guerriers. Mmh. Et effectivement, ça a donné lieu à une guerre qu'on appelle la guerre des camisards, qui a duré entre 2 ans et demi, 3 ans, de 1702 à 1704.
Et ces périodes, moi j'ai l'impression que ça a forgé aussi le caractère des Cévenols qui aujourd'hui encore... sont des gens plutôt rudes, plutôt... Voilà, on sent qu'ils ont un caractère bien trempé.
Oui. Non, mais c'est vrai que je pense aussi que quand on parle de résistance, la résistance, c'est le mot maître en Cévennes, puisqu'en fait, c'est le mot qui est gravé sur la margelle du puits de la tour d'Aiguemortes. C'était une résistance qui s'appelait Marie Durand, qui avait été donc emprisonnée pour cause de religion et qui avait gravé ce mot. Mais il y a dans le pays, c'est un historien qui disait ça, c'était Philippe Joutard pour ne pas le nommer, qui disait déjà il faut résister à ce pays.
Ouais.
Il faut y vivre. Et je pense que la résistance était déjà dans les cœurs et dans les âmes.
Et pourquoi c'est si dur d'y vivre, même aujourd'hui ?
Ah, c'est un pays rude pour le cultiver. Il faut l'amadouer. On n'est pas dans la Beauce. Hein. On est vraiment. On construit des terrasses. On aménage déjà la géographie pour pouvoir avoir des surfaces planes par espalier. On appelle ça les failles là-bas, les bancelles, pour pouvoir cultiver, pour pouvoir. Oui, il faut. Un peu dresser le pays, il faut un peu l'amadouer, quoi. Voilà.
Ouais, avec un climat qui n'est pas toujours facile, et puis avec une sorte d'isolement, c'est pas une région qui est très facile d'accès.
C'est pas une façon, mais c'est en fait le climat est comme le pays que je viens de vous décrire, c'est-à-dire il a ce contraste-là, il a ce côté un peu riant, rieur du sud, avec ce côté plus dur dans le nord. Et c'est vrai que l'hiver et l'été. Parfois, il y a des endroits des Cévennes, et j'y ai habité, j'ai eu une maison pendant quelques temps, il y a des endroits qui font la gueule, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont vraiment durs, et c'est pas croyable comme l'été, le paradis revient. Ouais. Voilà.
On va continuer à découvrir les Cévennes dans un instant. Avec vous, Lionel Astier, vous allez nous livrer vos meilleurs coins, vos balades préférées. A tout de suite, en direct, sur Europe 1.
16h-18h, et si on partait, Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures de voyage tous les après-midi, à 17h donc le Canada, 3 millions de lacs là-bas à découvrir, il vaut mieux partir tôt et prendre son temps.
Alors une bonne canne à pêche. Vous les avez comptés, Philippe ?
3 millions, mais c'est fou, le chiffre est fou. Et puis là tout de suite, nous sommes dans les Cévennes, le pays des châtaigniers. Nous sommes en compagnie du comédien Lionel Astier, qui est originaire d'Alès. Pour découvrir les Cévennes, il vaut mieux des bonnes chaussures. Il faut marcher, je crois. Hein.
Oui, mais je crois que... Bon, je pourrais dire la même chose de Paris.
Oui,
mais
c'est vrai.
Mais c'est vrai que pour découvrir, il faut marcher. Oui, je crois qu'il faut marcher. C'est la meilleure façon de les voir. C'est la meilleure façon de les voir. Et il y a un itinéraire qui est célèbre maintenant. C'est le fameux chemin de Stevenson. Le fameux chemin de l'auteur, donc Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor et de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui a écrit Voyage à travers les Cévennes avec un âne. Et c'est une merveilleuse façon de découvrir les Cévennes.
Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit secret, un lieu que vous nous conseilleriez, que vous adorez ?
Moi, j'ai un endroit secret, à part ce chemin-là, j'ai un endroit secret, oui, qui s'appelle le col de Périès. Qui se trouve au nord d'Alès. Alors on est vraiment en pleine Cévennes. C'est un endroit pas facile à trouver. Il y a là un rocher où j'allais quand j'étais même jeune, il y a très longtemps, j'ai l'impression d'y être toujours allé. Et depuis ce rocher-là, on a les Cévennes à perte de vue. Moi, je disais toujours, ça ressemble à des fauteuils de théâtre, c'est-à-dire les montagnes comme ça, à perte de vue, comme ça, rondes, bleues, comme ça, Et là, il y a un endroit magnifique, oui. J'y allais parfois, souvent, je m'y endormais sur ce rocher parce qu'il avait accumulé la chaleur du soleil pendant la journée.
Ouais. Vous y alliez seul
endroit,
ou pas ?
Pardon ?
Vous y alliez seul ou pas ?
J'y allais, j'ai emmené des gens, c'était une invitation très particulière. Ouais. Je ne le montrais pas à tout le monde, mais j'y allais souvent très seul, oui, bien sûr.
Ouais. Ouais, moi, je trouve que ce pays, effectivement, incite à la rêverie. On a envie de s'asseoir et de regarder. Et de regarder ces paysages très doux, très ronds, et en même temps désolés. Il y a un côté contemplatif dans cette région formidable.
Et d'écouter, parce que sur ce rocher, c'est là que j'ai découvert la bascule du jour et de la nuit et les bruits de la forêt, les bruits, le monde de la nuit qui prend sa place quand le jour s'en va. J'oublierai jamais ces sons et puis cette lumière, effectivement.
Et ça se joue vraiment en quelques minutes. Hein, ouais. La forêt s'éveille.
Oui.
Et on en parlait hier, justement, dans les forêts plus lointaines. Mais à un moment, ça y est, la forêt reprend ses droits. Et c'est incroyable ce qu'on peut entendre.
Voilà,
c'est une... Il y a un vacarme, carrément. Il y a un vacarme.
C'est une terre de sensations.
C'est une terre de sensations. Et en tout cas, c'est ce qu'elle m'a enseigné. D'une part, parce que je parlais des camisards tout à l'heure, ce qu'il faut retenir aussi dans les camisards, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle La nuit des camisards, qui a joué pendant 10 ans dans les forêts de Cévennes, et qui traitait de ça. Et j'ai eu envie de l'écrire, non pas parce que c'était mes racines, mais parce que les Cévennes, pour moi, enfin l'histoire des Cévennes parle de notre actualité, c'est-à-dire... je parlais de la révocation qui parle de la violence religieuse, de la violence d'État, de la liberté d'expression, de la liberté de conscience des migrants. Et les Cévennes, c'est aussi une terre d'exil, c'est-à-dire que à la révocation, en tout cas dans l'époque des Camisards, plus de 200 000 Huguenots sont partis. Et pour moi, dans ma jeunesse, ça m'a extrêmement ému. Parce que, par exemple, vous savez, quand on achète des maisons dans les régions, on dit « oh là là, c'est encore un Suisse, encore un Hollandais qui a acheté la maison. » Et en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont chez eux, ils reviennent, tout simplement. Il y a une grande assemblée annuelle dans un endroit qui s'appelle le Musée du Désert, qui est un endroit de mémoire, qui rassemble des milliers de personnes les premiers dimanches de septembre et où reviennent, comme ça, des gens qui retrouvent leurs racines, là, dans les Cévennes. C'est une journée extrêmement émouvante, voilà.
Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir vos Cévennes à vous. Je rappelle qu'à la télévision, on vous retrouvera dans Meurtre à Toulouse, la série policière à succès de France 3, mais aussi dans Alex Hugo sur France 2. Et puis bien sûr, fin novembre, avec la sortie du film Kaamelott, le premier volet réalisé par votre fils, Alexandre Astier, sortie prévue le 25 novembre. Et puis, à la rentrée, vous partez aussi, si mes infos sont bonnes, en tournée pour une pièce intitulée Le Muguet de Noël. Merci beaucoup.
Merci.
À une prochaine fois, on se retrouve dans une petite seconde avec les histoires savoureuses, croustillantes et effrayantes de Nathalie Hellal, les histoires des Cévennes. À tout de suite sur Europe 1.